Alors Cyril Lignac, le meilleur pâtissier, ça animait toujours l'émission avec le même appétit.
Ah oui.
Est-ce que tout n'a pas déjà été fait en cuisine? Parce que moi, c'est ce que je me dis, parce que tout a été fait, du coup, j'essaye rien. Mais... non, mais est-ce que tout n'a pas été fait? Un peu, ou on peut toujours inventer?
Oh, je pense qu'on peut toujours inventer. Avant, la cuisine était vraiment franco-française. Aujourd'hui...
Il y a plein d'influences.
Il y a plein d'influences. Donc du coup, ça donne une diversité, une diversification.
Vous ne trouvez pas ça, Cyril Lignac, un peu énervant, cette mode de revisiter les recettes? Parce que moi, par exemple, l'autre fois, on m'a servi une tarte au citron revisitée. Oui. D'accord,
avec des merguez, c'était dégueulasse.
Elle était dans un bocal, hein, d'accord, et la tarte, elle était émiettée au fond du pot.
Non, mais ça me fait rire parce que je dis souvent qu'au bout d'un moment, il y en a marre de tout revisiter.
Ben, c'est ça. Ah, oui.
Au départ, ça partait d'un bon sentiment, en disant, bon, mais voilà, la tarte au citron classique, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui redonner un peu de jeunesse? Comment on peut la redynamiser, la rendre un peu plus sexy? Sauf que, comme dans tout dans la vie, on a exagéré. Donc du coup, maintenant, il y en a dans des bocaux, il y en a la pâte dessus, sans pâte, voilà, ouais. La pâte inversée, la crème au citron à côté, la glace à l'intérieur... En fait, ça ne veut plus rien dire. Donc, je dis toujours que revisiter dans le sens oui, mais c'est vrai que c'est un peu l'indigestion de tout revisiter, quoi.
Ouais, avec mesure, en fait.
Avec parcimonie, ma grande copine.
Parcimonie,
c'est une copine à moi. Ouais.
D'accord. Alors, pour cette. Parce qu'on m'a dit de ne pas parler
vous,
de votre.
Vous pouvez rigoler à mes blagues aussi.
Non, non, mais. Parce qu'on m'a dit.
Il n'y a pas que moi qui suis obligé de rigoler à vos blagues.
Vous êtes obligé.
Moi, je veux bien rigoler. Je me suis levé de bonne heure sur la tête, je suis de bonne humeur.
Non, parce qu'on m'a dit de ne pas parler de vos vies privées, donc vous me parlez de votre copine, je ne rebondis pas.
Ah, vous avez ouvert la porte. Hein.
Mais moi, j'aimerais quand même.
Oula.
Que vous fassiez des gâteaux qui ne font pas grossir. Enfin, ça, c'est un vrai. Moi, j'adore les gâteaux, mais. Et du coup, au restaurant, je prends le café gourmand où il y a trois petits desserts. Je me dis, c'est moins pire, mais en fait, je crois que c'est pire.
Ah oui,
on a cinq desserts.
Surtout qu'en général, elle boit trois cafés. Donc
c'est bon, je ne sais pas qui a inventé le concept du
café gourmand.
Du café gourmand. Moi, je n'ai jamais fait ça dans mes restaurants, mais je trouve. Je trouve ça malin, parce qu'évidemment, tu dis, non, moi, je prends juste un café gourmand, il y a trois petites choses. Ouais. Mais en fait, t'as mangé un dessert, quoi.
Bah oui, ouais. Si tu les rassembles...
C'est la même chose, parce qu'il y a trois petites tartelettes, une petite madeleine, oui. Un financier.
Mais alors, l'histoire quand même des femmes qui font attention à leur ligne, il n'y a pas moyen de faire des gâteaux moins grossissants, Cyril Lignac?
Moi, je pense que, oui, on peut alléger... Bon, déjà, on a beaucoup allégé la pâtisserie en sucre... Alors en crème, un peu moins, mais en tout cas en matière grasse. Là, par exemple, les viennoiseries, à l'époque, on mettait beaucoup plus de beurre que ça. Maintenant, on a diminué le beurre pour que ce soit plus digeste, parce qu'on mange aussi différemment aujourd'hui par rapport à avant. Mais j'ai envie de dire, il faut se faire plaisir, en manger moins, mais en manger du bon, quoi.
Mais vous n'avez pas quand même travaillé, vous qui avez tellement de pâtisseries sur... Parce que moi, je serais cliente. Oui.
On a fait une fois...
Avec côté en bourse, hein, si ça marche. Ouais.
Avec Benoît, mon chef pâtissier, on avait fait un gâteau qui s'appelait le 100%, c'est-à-dire sans gluten, sans lactose, sans sucre et sans gâteau. Ouais.
Non, mais, en fait, le
truc, c'était quoi? C'était une mousse?
Non, c'était un biscuit moelleux avec une compotée de framboises. On avait travaillé du sucre de coco... Et on avait fait ce dessert avec des fruits. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu mets dans ta vitrine un gâteau sans rien, les gens ils te prennent pour dire c'est quoi ce gâteau?
C'est pas vendu.
Pas trop.
Alors vous avez été, Cyril Lignac, un des premiers cuisiniers à faire de la télé en France. Et vous êtes fait à l'époque vilipendé. Et maintenant, vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont critiqué, qui veulent passer à la télé. Ça vous fait rire,
mais,
ça.
Non, mais ça me fait rire parce que...
Vous dites que vous avez été traité plus bas que terre.
J'ai démarré il y a 15 ans. Et c'est sûr qu'en France, dès qu'on change un peu les codes, tout de suite, ça bouscule un peu la maison et donc ça crée un peu des tensions. Et c'est vrai que dans notre profession, il y avait toujours eu des émissions de cuisine comme Joël Robuchon ou très classiques. Et le fait d'ouvrir les portes d'un restaurant, de rentrer intimement dans notre univers, comment on fabrique, comment on crée un restaurant, les joies, les peines, les passions et tout ce que ça a démené autour de tout ça... Eh bien, c'est sûr que ça a fait un peu grincer des dents. Maintenant, tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, il y a plein d'émissions de cuisine à la télé. Ça a revalorisé notre métier. Ça crée des vocations. On est passé du livre de cuisine corvée au livre de cuisine passion. Donc, du coup, ça n'est qu'une expérience formidable.
Et le fait
je suis pas rancunier.
Vous n'êtes pas rancunier. Et le fait qu'on vous reconnaisse dans la rue, c'est agréable? Des fois, c'est pesant ou...
Je peux m'allonger pour répondre à la question.
Si vous voulez. Oh, allongez-vous. Ça me fera un beau cadeau d'anniversaire.
Passe à l'attaque.
Vous dites que vous avez un socle d'amour très fort avec vos parents. Oui. Votre maman qui était infirmière et votre sœur est infirmière et auxiliaire puériculture. Et vous dites que vos parents n'ont jamais fait de différence entre vous deux.
Oui, parce que j'ai grandi dans une famille unie, avec beaucoup d'amour. Et c'était la seule chose qui rayonnait chez nous. Peu importe que je sois connu ou pas.
En plus, vous étiez nul à l'école.
Ah, ça, on peut le dire.
C'est-à-dire ?
Ça, c'est minime, ça.
C'est-à-dire ?
Non, mais mes parents s'inquiétaient de se dire qu'est-ce qu'on va faire de lui, quoi. Ma mère, elle me disait, mais qu'est-ce que je vais faire de toi ? Et donc, je me disais, mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et un jour, j'ai découvert la cuisine parce que...
Comment ?
Parce que je voyais les gens, les amis de ma famille, etc., venir manger à la maison et porter un regard bienveillant sur mes parents quand ils faisaient à manger. Et donc, je me suis dit, mais... Si moi, je faisais que me faire engueuler parce que forcément, j'avais des bulletins qui étaient catastrophiques. Et surtout,
vous n'étiez pas du tout scolaire.
Pas du tout. Et surtout, mes parents s'inquiétaient de savoir qu'est-ce que j'allais bien devenir plutôt que tout le reste. Et quand je voyais toutes ces personnes porter un regard bienveillant, je me suis dit, si moi, je fais bien à manger, les gens, ils vont m'aimer. Et du coup, je vais inverser la vapeur en disant, mais voilà... Je vais
comment vous expliquez
cuisiner.
Que le cancre qui était inadapté à l'école, maintenant vous dirigez une entreprise qui est florissante, plusieurs restaurants, plusieurs boulangeries, pâtisseries, comment
ben, c'est le cursus de plein d'enfants.
Parce que
vous
auriez pu être médiatisé et puis après juste faire un truc. Là, vous êtes un vrai homme d'affaires, vous avez plein de...
Alors, déjà, la première chose, c'est que j'étais comme plein d'enfants scolarisés aujourd'hui, qui trouvent pas leur voie et qui se posent plein de questions, qui sont pas forcément scolaires. Il y a des jeunes qui sont faits pour les études, d'autres pas.
Vous faisiez du bruit à l'école, vous étiez dissipé,
j'étais pas forcément dissipé, mais ça me passionnait pas plus que ça. Ouais. Donc du coup, à partir du moment où tu trouves ta voie, où il y a quelque chose qui te plaît et tu te reconnais là-dedans, ben forcément d'un coup tout devient formidable. Donc je dis souvent aux jeunes, dès que vous allez trouver votre voie, peu importe ce que vous allez faire, cuisinier, ingénieur, docteur, physicien, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'être passionné de ce que tu fais. Et à partir du moment où il y a la passion de ce que tu fais, de ce que tu entreprends, bah, tu deviens entrepreneur comme je le suis aujourd'hui. C'est vrai que j'avais ce choix à un moment qui s'offrait à moi de dire bah, « il y a la télé qui cartonnait » et puis il y avait aussi mon métier et mes racines. J'ai jamais voulu abandonner d'où je viens, qui est mon métier de cuisinier. Et la télé, c'est un vecteur média qui permet de supporter ce qui est la cuisine. Alors, grâce à la télé, ça m'a permis de me faire connaître, ça m'a permis de me lancer. C'était un formidable tremplin. Après, il a fallu manager et travailler avec passion, écrire, se remettre en question, écrire des recettes, manager des équipes, former des gens, transmettre le savoir, qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, on est 150 collaborateurs et c'est formidable.
Oui, parce que même si vous étiez mauvais à l'école, vous êtes un gros travailleur, en fait, quand même.
Oui, l'un n'empêche pas l'autre.
Ah ouais,
mais c'est vrai que l'école, ça ne me passionnait pas parce que je n'arrivais pas à me reconnaître là-dedans.
Et vous avez revu un ancien professeur qui vous disait que vous étiez bon à rien ?
Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai revu, bien sûr, je suis en contact avec mon lycée hôtelier, là où j'ai appris la cuisine. Et mon prof de cuisine qui m'a dit la dernière fois, j'aurais misé sur tout le monde sauf sur toi.
Donc
ça, c'est formidable. Et je trouve ça génial. Comme drôle. Quoi, j'ai dit à tout le monde, il faut croire en ses rêves. Et il faut surtout ne pas abandonner la passion que l'on a pour n'importe quel métier. Parce que quand tu fais les choses avec passion, il y a un bon Dieu pour les courageux et j'en suis l'exemple.
Ça suscite des vocations de faire toutes ces émissions de cuisine, Cyril Lignac ?
Mais c'est formidable. Moi, je trouve que le métier de la gastronomie, parce que j'inclus tout ce qui touche à la gastronomie, autant les boulangers, les pâtissiers, les cuisiniers, les bouchers, les poissonniers... Tous ces métiers de bouche qui sont quand même les piliers de notre tradition en France ont été longtemps malmenés. Pendant longtemps, c'était un peu la voie de garage que d'être cuisinier.
Pour les gens qui étaient nuls à l'école comme
ouais,
vous.
Oui, un peu. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on a redonné les lettres de noblesse à notre métier. Et je trouve ça formidable parce que je vois des jeunes qui ont été jusqu'au bac ou après le bac qui ensuite disent bah, « je vais bifurquer dans les métiers de la restauration ».
Il y a même des gens qui font des reconversions maintenant.
Et oui, des reconversions, etc. Donc, je trouve que c'est super parce qu'on a vraiment redonné les lettres de noblesse à notre métier. Et ça, c'est sublime.
Léa Landau a des questions à vous poser, Cyril Lignac.
Oui, Cyril Lignac. J'ai tellement d'amis qui sont fans du meilleur pâtissier que je me suis dit, bon, ça, c'est bon, ils le connaissent. Alors, autant partir sur autre chose. Je vous ai donc préparé une interview croquante pour obtenir de vous des infos croustillantes. Vous êtes prêts, Cyril Lignac ?
Oula.
Votre souvenir le plus croustillant de vos débuts en tant que chef ?
Mon premier service au 15e, quand j'ai ouvert le restaurant, forcément une grande émotion. Mon premier restaurant, le premier service, filmé, l'émission Oui Chef. Enfin, voilà,
il est juste derrière les studios, d'ailleurs.
Il est juste derrière les studios.
Vous nous invitez à déjeuner après ?
Ben, il est fermé en ce moment. mais pour l'ouverture vers le mois de mars, avec plaisir.
Ah, super. Alors, on craque plus dans le sens pétage de plomb sur les tournages de Top Chef ou ceux du meilleur pâtissier ?
Ah, je pense Top Chef.
Ouais.
Quand je les vois courir tous dans tous les sens, tomber les légumes, les rattraper, galoper, je pense que dans Top Chef, oui.
Ce que les filles ont toujours trouvé de craquant chez vous, à part la cuisine ?
Ça, il faut leur demander, je ne sais pas.
Oh si, forcément, elles vous le disent, arrêtez. Dites-nous. Parce que les musiciens draguent grâce à leur don pour l'arpège. Est-ce que l'arpège vous a permis de draguer Cyril Lignac ?
Alors, je fais la cuisine, oui, de temps en temps.
Ça fait craquer les filles de faire la cuisine ?
Bah oui.
Bon, non, ça
ah ben voilà, elle a répondu.
Bon, oui. Si, un mec moi, qui cuisine bien, c'est quand même
hyper...
Moi, j'ai
déjà pécho avec une de ses recettes, hein, je vous assure. Le sabayon aux fruits rouges, c'est la dernière image. Et j'ai pécho, ouais. Je vous le dis. Hein, c'est
mais en Belgique, hein, quand même. Pour toutes les femmes, pour toutes les personnes, même en désespoir de vie sentimentale autour de cette table, Cyril Lignac, une question très importante. Est-ce qu'il y a vraiment des ingrédients aphrodisiaques ?
Alors ça, je me suis posé 100 fois la question.
Ouais.
Le gingembre, le chocolat, j'ai entendu mille et une choses, je sais pas, j'ai mangé plein de gingembre.
Et vous étiez toujours pareil.
Et ça n'a pas changé ma vie.
Ah ouais. Pour finir, je bascule en questionnaire de Proust, Cyril Lignac. Oula. J'aimerais savoir si vous étiez un plat, vous seriez lequel ?
J'en sais rien.
Bah alors, si Anne Romanoff était un plat, Cyril Lignac, elle serait quel plat et pourquoi, à votre avis ?
Une salade de figues avec...
avec des jambons.
Avec des noix et des compotes de jambon.
Alors vous êtes ici pour deux spectacles à succès que vous avez écrits, donc vous avez fait la mise en scène. C'est une apothéose, là ?
Oh, c'est dingo. Ouais. J'ai du mal à réaliser. Je cours d'un théâtre à l'autre. Ce sont des projets ambitieux, les deux, donc, qui demandent un travail constant, des réglages, beaucoup de précision. Ce sont des spectacles sans parole, avec beaucoup de sons, beaucoup de... C'est du théâtre visuel, donc c'est un travail très intense. Et les deux spectacles sont très, très différents. Donc, j'ai une grosse troupe avec Le Banquet, et puis j'ai ce seul en scène avec Pierre Richard. Ces deux univers... à la fois éloigné et à la fois, bon, c'est mon langage sans parole.
Alors, Le Banquet, c'est plus qu'une pièce de théâtre, c'est un spectacle. Vous avez eu le Molière de la meilleure metteur en scène pour ça. Ça, c'était une fierté, non ?
Ah ouais, parce que je suis au début de quelque chose. Ce n'est que le troisième, Monsieur X, c'est le troisième spectacle.
C'est votre nouveau métier.
Oui, on peut dire ça.
Mais du coup, est-ce que vous chantez le regard des gens qui a changé sur vous ?
Est-ce
les gens
que
du
je chante
non. Est-ce que le regard des gens a changé sur vous, Mathilde Amet, ouais. Depuis ce succès, c'est-à-dire ?
Oui, parce que... Comment dire ? Ben déjà, le premier spectacle, ça a créé un effet de surprise. Je sentais dans le regard des gens qui venaient me voir, mais enfin, c'est vous qui avez fait ça, comme si c'était improbable que d'où je vienne, je puisse créer ça. Mais moi-même, j'ignorais qu'un jour, j'allais faire ça. Hein, donc, je comprends qu'on soit surpris. Et puis après, il y a eu différents témoignages, notamment de gens que j'admire, même jusqu'à James Thierry, qui m'a félicité. Alors ce sont vraiment des signaux très forts, ouais, de reconnaissance très très forts. Pierre Richard m'a écrit une lettre quand il a vu mon premier spectacle, alors qu'on se connaissait pas, pour me dire à quel point il avait toujours rêvé de faire ça, qu'il avait jamais osé. Enfin, même Pierre Etex m'a écrit une lettre. Donc j'ai reçu des témoignages de reconnaissance. Pour moi, je n'avais jamais ressenti une telle reconnaissance. Enfin. C'est
un accomplissement nouveau, professionnel, en fait.
Plus que professionnel, c'est ma vie.
Alors, vous dites, Mathilde Amet, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier le comportement humain dans la contrainte de la cohabitation. Ouais. Vous avez pris des notes pendant les grèves ? Parce qu'étudier le comportement humain dans la contrainte de la cohabitation, c'est aussi le principe de la télé-réalité. Vous en regardez ?
Non, je ne regarde pas ça, parce que pour moi, c'est une mise en scène fausse. Enfin, c'est mettre des gens dans des situations... difficile, ils ont été choisis pour se friter.
Que votre pièce, c'est un peu.
C'est pas le même regard, c'est pas un regard tendre, c'est pas un regard aimant, c'est un regard vicieux. Enfin, moi je trouve, hein, c'est un regard qui. On va chercher, on va essayer de mettre les gens dans des situations où ils vont être confrontés au. Enfin, ça va solliciter pas le meilleur, je pense. Ça va pas solliciter le meilleur de ces personnes. Je sais pas, ni notre regard d'ailleurs. C'est un regard un peu comme quand on regarde des accidents de la route, quoi. Hein, c'est c'est pas ce regard-là que j'essaye de solliciter.
Mathilde Amet, le spectacle est très original dans son écriture. Vous dites « Tout est écrit, mais la langue n'est pas verbale. Je transforme les mots en musique, en chant, en danse, décor. Tout est clair et compréhensible, mais ça ne passe pas par les mêmes endroits de la compréhension. » Aidez-moi à comprendre.
Vous avez 2 heures.
Non, mais ce qui est génial, c'est que c'est un style maintenant. C'est le style Mathilde Amet, ce genre de pièce. C'est... Comme Michalik a son style, Mathilde Amet a le sien.
Oh, merci Léa. Bah, c'est... J'ai cherché à proposer quelque chose d'un peu différent. Je me dis, si je fais quelque chose, autant tenter un truc, quoi. Je pense que la scène, le théâtre, c'est un endroit d'expérience, c'est un endroit d'audace, c'est un endroit où tout doit être essayé. On ne peut pas se contenter de faire du théâtre, prendre la scène, avoir la chance d'être sur une scène de théâtre et faire une chose que tout le monde a déjà fait. Enfin, ou alors, moi, enfin, je trouve que ça ne vaut pas le coup.
Vous dites que la danse vous a donné une capacité de travail hors norme. Vous dites que je peux rester 20 heures d'affilée sur un plateau et ça m'étonne toujours que les gens soient fatigués.
Mais oui, je ne sens absolument pas la fatigue. Mais je suis portée. Alors, ça dépend. Ça dépend. Je mets en place une méthode de travail où on est tellement dans l'action et tellement dans le mouvement que je pense que même eux ne sentent pas ni le temps passé, ils sont aussi portés par un mouvement.
Mathilde Amet, vous dites « La danse a eu ma vie durant l'effet d'un tuteur intérieur qui m'a préservé de bien des dérapages ». Moi, des dérapages, moi je dérape quand je suis en face d'une tablette de chocolat. Mais c'est quoi vos dérapages, Mathilde Amet?
Alors j'ai un problème de pain.
De pain?
Ouais, c'est-à-dire que je mange une quantité de pain par jour qui est inhumaine.
Ah oui?
Ouais.
Vous n'êtes pas allergique au gluten?
Le pain
les
et la purée de pommes de terre.
Ah oui.
Et ça, c'est vraiment, je ne peux pas physiquement résister. Si j'ai une tranche de pain devant moi, que j'ai mangé un couscous avant, je remange du pain derrière. C'est un truc, ouais, c'est un vrai problème.
Vous n'êtes pas intolérante au gluten, alors?
Eh bien, visiblement, non. Malheureusement pour moi.
Et les pommes de terre, vous dites?
Vous n'avez pas une tête à manger. Enfin, quand on vous voit, vous êtes quand même...
Mais oui, mais vous n'avez pas vu mes fesses.
Ah bon?
Là,
non,
vous me voyez assise.
N'importe quoi. Mais ça va, du pain et des pommes de terre.
Je grossis pas de la tête, alors ça se voit pas. Mais quand même.
Ça coûte pas cher de vous faire à dîner une baguette et une purée.
Ouais, je suis cheap date.
On va quand même vous commander un petit sandwich purée.
Vous venez parler de votre nouveau livre, Abdelmanik, Méchantes blessures. Vous trouvez qu'il y a des bonnes blessures?
Vous avez 4 heures. Hein. C'est noté. Hein. Par contre, ça compte pour le bac. Hein.
Ouais, il y a des bonnes blessures. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée, c'est de dire que on peut construire après, quand même.
Après des blessures?
Après des blessures. Et quelque part, c'est ce que je dis d'une certaine manière dans le livre, c'est que finalement, est-ce qu'on ne serait pas le résultat de traumatismes, de blessures bien, plus ou moins bien soignées?
Oui, mais c'est ça le problème, c'est si les blessures ne sont pas soignées, on s'effondre.
C'est ça le problème. Ouais. C'est ça le problème.
Comment soigner ces blessures?
Ben,
Dan Roumanoff, finissez votre phrase.
Il faut d'une certaine manière revenir aux fondamentaux, au commencement, et essayer peut-être de voir ces blessures, de les voir droit, de voir qu'elles existent et de voir comment on peut faire en sorte de les dépasser finalement.
Il y a un très beau passage dans le livre où vous parlez du couple de vos parents, qui est très émouvant au moment où ils sont encore ensemble. Vous dites que vous avez du mal à vous rappeler de cette image-là.
Mais c'est marrant parce que bon, c'est un personnage qui me ressemble beaucoup.
Oui,
mais ce n'est pas moi.
Oui, d'accord.
Mais ce n'est pas moi.
Rufus était un rappeur plutôt célèbre dans le milieu, une véritable star dans sa région, mais la vie qu'il avait menée jusque-là n'était pas des plus simples. Drogue, rivalité entre rappeurs, appartenant à différents gangs et relations familiales toxiques.
Ah non, il parle de moi, en fait.
Il y a plein d'histoires qui peuvent se ressembler. Mais ça, c'est une sorte de toute façon, mon idée quand j'ai écrit ça, c'était une sorte d'avatar. Quelqu'un qui me ressemble un peu, mais qui n'est pas vraiment moi. Et c'est intéressant de raconter par un autre prisme. Du coup, on peut peut-être aller plus loin. Je pense que je suis allé plus loin dans...
Non mais là, je me voyais, âgée de 4 ans, dans une longue ruelle étroite, tenant d'une main ma mère et de l'autre mon père. C'était plutôt sommaire au départ. Pourtant, chaque fois que je revenais mentalement à la charge, le souvenir était plus précis, l'image était moins vaporeuse et reprenait place clairement sur ce trottoir, si particulier, la dénivellation à peine perceptible, dans cette rustrage bourgeoise que nous foulions si joyeusement. Je voyais également tous les détails des chaussures de mes parents, ainsi que les chaussettes blanches de mon père et les collants couleur chair de ma mère. J'entendais avec précision la percussion. Plus j'approfondissais le mouvement de ma pensée, plus des images précédemment ignorées se faisaient jour. Mmh. Donc là, c'est bien le souvenir de vos parents ensemble. Vous, Abdelmanik.
Ça ressemble.
Et vous avez eu.
Non, mais parce que la réalité, c'est que vraiment, je me posais... Il y a plein de questions que je me pose rapport à moi, mais que je pense qu'ils sont des questionnements...
universels.
C'est universel. La notion de filiation, la notion de finitude, le fait de savoir que les choses ont une fin, et notamment là, les parents de mon personnage... Donc, on sait qu'ils vont se séparer. Et de se dire que c'est étonnant des gens qui ont pu s'aimer si fort à un moment et finalement, la vie fait qu'à un moment donné, ils se séparent et il y a des enfants qui restent. Et comment eux le vivent dans leur propre ensuite rapport à l'amour, leur rapport affectif, leur rapport à l'autre, etc., etc. C'est ça qui m'intéressait, en fait, de dire que comment les actions d'un être ou d'être vont avoir des répercussions sur d'autres êtres. Et c'est assez intéressant. Et je parle de...
Mais là, vous parlez quand même de cette histoire de votre père qui quitte votre mère avec 6 enfants, sans moyens. Et vous dites, moins d'une année après cet événement, mon père allait quitter ma mère et notre monde avec ses éblouissantes habitudes. C'est ça pour mes frères et moi-même. J'allais comprendre plus tard que ce qui était vrai pour un être était vrai pour une famille et pour un peuple tout entier.
Ouais, ouais, mais encore une fois, c'est il se trouve que il y a des similitudes avec moi-même, mais c'est mon personnage. C'est non, mais c'est important.
Qui a exactement la même vie que vous. Mais...
Non,
parce que Abdelmanik, ne cherchez pas. Elle a croisé Schwarzenegger, elle l'a appelé Monsieur Terminator.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, l'idée de ce roman, c'est que je le porte depuis une dizaine d'années. J'avais en fait, il y a cet auteur donc, qui nous a quittés récemment, qui est François Weyerganz, qui avait écrit « 3 jours chez ma mère », où il parlait de... Il avait cet avatar qui était lui, aussi, mais pas vraiment lui. Et je m'étais dit, mais ça serait intéressant un jour d'écrire un roman, c'est moi, mais c'est pas vraiment moi. Je raconte des histoires aussi qui sont arrivées à des proches, mais aussi à moi, etc. etc. C'est intéressant parce que du coup, on explore, on va peut-être dans des zones...
Vous n'auriez pas été autrement.
Exactement.
Il y a moins de pudeur.
Vraiment. Mais...
Et votre famille a lu ce livre ?
Pas tout le monde encore.
J'ai l'impression que je suis au commissariat quand elle dit c'est toi qui... Non, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui me ressemble.
Non, c'est quelqu'un qui me ressemble.
Non, mais... C'est parce que vous...
j'étais chez moi, j'ai rien à voir. Oui, la mobilette, j'étais dessus.
Mais parce que finalement, tous les artistes, tous les auteurs, tous les écrivains, ils se racontent eux-mêmes.
Bien sûr.
Il raconte des histoires. Parce que pour être au plus proche d'un personnage, finalement, il faut parler d'une expérience vécue. Et d'une certaine manière, c'est vrai que partir de soi, ça part aussi, c'est dans l'idée de raconter les choses de l'intérieur.
Donc là, votre personnage meurt, oui. Qui n'est pas vous.
Je suis vivant, je suis devant vous.
Et donc là, vous exprimez votre avis sur la France, ouais. sur toutes ces occasions aussi de...
Ouais, disons que c'était comme si du fait de ne plus, d'une certaine manière, de ne plus faire partie du monde, c'est comme si tout d'un coup, sa vision...
Ça donne une liberté de s'exprimer.
Ouais, disons que ça s'éclaircit. C'est comme s'il voit les choses avec un recul qui est finalement un recul d'importance pour le coup, puisqu'il est mort. Mais il y a cette idée de dire que réfléchir sur les fonds, comment on fait peuple, réfléchir sur ces idées, pourquoi parler de spiritualité, par exemple, en quoi c'est vital, en quoi c'est essentiel pour un être, parler d'amour, la notion de couple, qu'est-ce que ça signifie,
alors la notion de couple?
Il faut
Ah non, lui posez pas la question, elle sait pas.
Vous avez remarqué qu'elle vous a pas interrogé sur c'est quoi faire peuple, hein. C'est quoi le couple?
C'est plus le couple, hein. C'est plus le...
Non, mais il y a cette idée en tout cas, rapport à mon personnage et à sa compagne, Rita, il y a cette idée de dire que finalement, pour comprendre véritablement ce qu'est un couple, c'est de comprendre qu'on est un à deux, en fait. Et qu'à partir du moment où on est dans cette démarche de complémentarité, où on comprend finalement qu'on a besoin fondamentalement de l'autre, eh ben, il y a quelque chose qui fait que ça peut durer, ça peut. Et c'est leur histoire, et elle s'en rend compte quand il meurt, en fait. Et donc c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de complémentarité, cette idée que on est entier, on est un être entier seulement avec l'autre.
C'est beau.
C'est ce qu'il faut que je dise à ma prochaine copine.
Alors vous avez un parcours quand même assez incroyable, Abdelmalik. Vous venez donc, votre père était d'un milieu très très cultivé, mm-hmm. journaliste. Mm-hmm. Quand il quitte votre mère, vous dites qu'il était d'une beauté extraordinaire aussi,
mm-hmm. et qu'il. C'était un bel homme.
Très bel homme, vous dites,
ouais,
même.
Très bel homme. Ouais.
Et donc, il fait 6 enfants à votre mère. Ouais. Vous rentrez à Strasbourg et il part.
Ouais. Comme ça arrive quelquefois, malheureusement.
Et il laisse rien, à part ses livres.
Ouais. Et ses livres, ça a été... pour moi, c'était comme un territoire à conquérir. Quelque part, sans faire de la psychologie de bistrot, c'est que d'une certaine manière, c'était la figure de mon père qui était là. Les livres, là, parce qu'il a laissé, il a laissé ses livres, il a laissé des dettes et il a laissé ses livres, là. Et pour moi, le fait de pouvoir lire ces livres, de pouvoir rentrer dans ces livres, ça voulait aussi dire peut-être connaître un peu mon père, mieux le connaître, etc. Et donc voilà, c'est comme ça, mon lien à la culture commence comme ça.
Et votre mère ne l'a jamais critiqué, ça c'est incroyable quand même. Quelle dignité, elle a travaillé comme une folle, vous dites dans le nettoyage, donc c'était très difficile. Elle était seule avec 6 enfants, elle n'a jamais critiqué cet homme qui l'a abandonné.
C'est beau. Moi, je suis l'homme, vraiment, je suis l'homme que je suis par elle, véritablement. C'est-à-dire que... cette dignité, son rapport comme ça à la dignité, le fait de ne pas s'abaisser à critiquer quelqu'un et à dire voilà, c'est comme ça, c'est notre vie, ou même notre situation, etc. C'est des choses qu'elle nous a données comme ça en héritage. Ce qui fait que mon rapport au monde, il est véritablement il continue à être influencé par cette femme pour qui la dignité, c'était la chose la plus importante.
Alors, quand vous étiez jeune, vous avez une double vie parce que vous dealiez du shit. Uh-huh. Même ça marchait bien, je crois.
Allez-y. Ça marchait bien. Répondez.
Troisième meilleur vendeur de France.
On est entre nous. C'est pas comme si on était sur une radio de grande écoute. Allez-y, balancez.
Vous allez sur le terre-terre, il y a une rue Abdelmalik.
Donc vous vous fournissez au Maroc. Donc,
vous étiez un très bon vendeur de shit et en même temps excellent à l'école. Et vous rameniez des bonnes notes à votre mère qui était très fière de vous, mais qui ne savait pas que vous dealiez du shit. Et vous racontez même qu'il y a des moments où vous aviez rendez-vous.
Dans la fraude fiscale, alors non, mais complète le dossier là.
Vous aviez rendez-vous et vous lisiez des romans et de la philosophie en attendant de vos rendez-vous. Vous étiez le seul dealer avec un livre de philosophie.
Faut dire que les bonnes notes aussi, c'est parce qu'il ramenait du shit au prof.
qui était complètement défoncé au moment de noter, du coup.
Mais justement, c'est cette vie schizophrénique, ça fait partie des méchantes blessures en réalité. Ce truc où finalement on essaye d'être à l'aise dans tous les milieux dans lesquels on évolue et c'est vrai que moi si j'ai été comme ça, c'est pas tant que j'étais méchant ou je voulais faire du business ou etc ou quoi que ce soit, c'est que on vit quand même dans un monde où l'avoir a pris le pas sur l'être. Ça veut dire que en fait on est par rapport à ce qu'on a. Donc si moi étant d'une famille pauvre dans une cité, il y a pas d'argent, et ben on fait ce qu'on peut pour dire moi aussi j'existe, moi aussi je suis là. Mais c'est vrai que quand en même temps, et y en a d'autres qui ont fait cette expérience, quand en même temps on lit des auteurs, quand en même temps on lit Camus, quand en même temps on lit Sénèque, quand on lit toutes ces figures-là, à un moment donné, on se dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On ne peut pas éternellement être dans ce...
Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté la délinquance ?
Ouais, je pense que c'est tout ça. On ne peut pas fréquenter...
Il y a eu il y a eu un moment, tout d'un coup, boum, ça s'est arrêté.
Bah, le juge, hein, surtout. Hein.
Non, mais sérieusement, je pense qu'on ne peut pas fréquenter... sincèrement, ces écrivains, ces philosophes, ces intellectuels, et ils continuent à être dans ce paradoxe. Et surtout que c'est des figures, là je vous ai parlé par exemple de Camus ou de Sénèque, c'est des figures où la chose morale est quelque chose d'important. Et donc il y avait juste cette idée de cohérence, d'être en cohérence, et à un moment donné...
Musique est arrivée aussi à ce moment-là.
La musique est arrivée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mes proches, beaucoup d'amis qui ont sombré ou sont retrouvés dans les longues peines de prison, ou sont morts, etc., etc. C'est des choses qui calment aussi. Et où à un moment donné, on se dit mais quelle est ma place, moi, là-dedans ? Est-ce que si je continue comme ça, je vais évoluer positivement ? Et si je continue comme ça, est-ce que je ne vais pas disparaître ? Etc. On se pose toutes ces questions.
C'est important pour vous, ce roman, Abdelmalik ?
Je pense, ouais, c'est très important pour moi. D'abord, c'est mon premier vrai roman, au sens où, évidemment, le personnage me ressemble un peu, etc. Mais c'est
la fiction.
Ouais, c'est de la fiction, vraiment. D'habitude, c'est... Il y a quand même une part
Il y avait écrit qu'Allah bénisse la France, ouais, c'était un essai.
Pour le coup, c'est autobiographique, réellement, où tout est vrai, etc. Donc, c'est hyper important pour moi, parce que c'est aussi un autre regard. Et je pense que la littérature, c'est quelque chose... comment vous dire ? Je pense que les écrivains de la génération d'avant, ils avaient cette idée de peut-être changer le monde. Et moi, je pense que je fais partie d'une génération d'auteurs, d'écrivains qui pensent qu'il faut sauver le monde. On peut plus, il y a plus à changer le monde, mais il faut le sauver. Et finalement, sauver le reste, ce qui reste d'humanité, ce qui reste de possibilité de faire du lien, ce qui reste de se dire que finalement, on a besoin les uns les autres pour être soi, etc.
Mais comment on fait pour déclencher l'humanité chez les autres, alors ?
C'est l'attitude qu'on a nous-mêmes, c'est-à-dire le fait de garder le cap soi, tout le temps. D'être cohérent, soit tout le temps, de se dire que...
Mais si vous êtes en face de quelqu'un qui est plein de haine et de violence, vous faites comment, Abdelmalik ?
Ben, moi, je parle par expérience.
Parce qu'il y a des gens qui doivent vous agresser aussi. J'imagine que votre réussite suscite des jalousies. Il n'y a pas que des
gens... Oui, mais ça, c'est différent. C'est des gens qui ne me connaissent pas, qui sont loin de moi. Mais des gens, si on connaît, si on discute, les gens comprennent les
on
choses à partir du moment où
on n'a pas le temps de discuter avec tous les gens qui ne vous aiment pas.
Ben, c'est ça. C'est pour ça que tant qu'on ne discute pas, ben, ils auront leur vision et il n'y a pas de problème. Ils pensent ce qu'ils veulent. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je sais que la haine tue. Je le sais vraiment, je l'ai vu, et ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas une métaphore.
Concrètement.
Ce qu'on ne peut pas construire sur la haine. Ça peut, à un moment donné, on peut se sentir un peu soulagé, mais on ne peut pas changer le monde avec...
Vous avez réussi, vous, à ne pas haïr votre père qui est parti comme ça ?
Bien sûr, mais par l'exemple de ma mère. En voyant si elle avait cette... Parce que finalement, la personne qui a été abandonnée en premier lieu, c'est elle. C'est elle qui se dit, voilà, je rencontre quelqu'un, je l'aime, on va vivre ensemble, on va vieillir ensemble. Et finalement, elle se retrouve seule avec 6 enfants. Donc, si quelqu'un comme ça est capable de ne pas avoir la haine, ou en tout cas de lutter pour ne pas sombrer dans la haine, eh ben, nous autres, on peut bien le faire.
Et votre père, vous l'avez revu ?
Je l'ai revu, oui.
Et alors, il devait se sentir pas très...
Toujours beau gosse.
Ah, j'avais la haine.
Ouais, on s'est revu. Mais encore une fois, je pense qu'il faut il faut tourner la page. Il faut laisser justement il faut donner la possibilité aux blessures de cicatriser. Et pour ça, je pense que il faut. J'ai même pas envie de dire pardonner, parce que pardonner, ça voudrait dire qu'il y a comme un sentiment de supériorité de ma part.
Je me suis jugé avant de pardonner.
Voilà. Ouais, et donc c'est pour ça que j'ai même pas envie d'employer ce mot de pardon. Je pense que à un moment donné, chacun a son destin. Il y a des vies. Il y a des gens qui sont faits pour être ensemble, d'autres qui se séparent, etc. C'est des réalités. Mais juste de se dire, voilà, moi, ma vie, c'est celle-là. Comment je m'accommode avec ça et comment je fais en sorte de quand même pouvoir vivre, continuer à vivre. Voilà, c'est tout.
C'est beau.
Ouais, je suis...
Ah, c'est bien parce que vous nous l'avez calmé. Merci. Hein. Ouais.
Amélie Nothon, vous êtes belge, mais comme tous les Belges qui réussissent, Brel, Hallyday, Poulvord, Adamo, ici, on vous considère comme une Française ?
Et pourtant, je rappelle à toute occasion que je suis belge, mais bon, c'est vrai que le rêve de tout auteur belge est d'être publié en France pour d'évidentes raisons, mais je ne suis pas française pour autant et j'ai tous les jours l'occasion de me rendre compte que je ne suis pas française. Quand j'ai débarqué en France il y a 25 ans, j'ai fait toutes les erreurs que commet une Belge qui débarque en France. Je suis entrée dans une boulangerie pour demander un pain français, je me suis fait insulter avant de comprendre qu'on disait baguette dans ce pays. Je commence peu à peu à m'acclimater, mais pas plus tard qu'il y a 2 mois, je me suis encore fait engueuler dans un café à Bastille où j'étais entrée par un jour de grande chaleur demander un bête verre d'eau, et ce bête verre d'eau m'avait valu des engueulades de la part du cafetier qui me disait « Mais qu'est-ce qu'il a mon verre d'eau ? Pourquoi il serait bête mon verre d'eau ?» et j'ai eu le plus grand mal à lui expliquer qu'en Belgique un bête verre d'eau c'est un verre d'eau tout simple.
Vous n'avez pas du tout l'accent belge par contre, Amélie Nothon.
Si vous voulez je peux l'avoir.
Montrez-nous.
Alors, bon, je préférerais, si vous voulez bien, avoir l'accent belge de ma région. Donc, moi, je viens de la région d'Arlon. C'est normal si vous ne connaissez pas.
Si, je connais.
Personne ne connaît. Et là, quand j'arrive à la boulangerie d'Arlon pour chercher le pain, je ne me fais pas engueuler, mais on dit « Oh, Amélie !»
D'accord.
C'est comme ça.
« Amélie !»
Voilà. Mais du coup, tout Arlon me connaît par mon nom.
Comme ça, c'est agréable.
C'est assez agréable.
Bah, ils sont 12 aussi, donc...
à peu près.
Alors, vous avez une adolescence très difficile, hein, anorexie, boulimie, alcooliste. Normalement, vous auriez dû devenir médecin ou fan de Benjamin Biolay.
Par ailleurs, j'aime beaucoup Benjamin Biolay. Mais ça,
c'est l'écriture qui vous a sauvé la vie, Amélie Nothon ?
C'est absolument certain. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que je vais très bien, mais je me suis accommodée de tout ce qui n'allait pas. Il est certain que écrire, ça a changé la boussole, quoi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je me suis dit, mais peu importe que je me nourrisse extrêmement bizarrement, du moment que je suis capable d'écrire. Et il se trouve que
vous écrivez tous les jours, de 4h à 8h du matin.
Sans aucune exception.
Et le reste de la journée, vous êtes en RTT, réécrivons tout tranquillement.
Non, le reste de la journée, je réponds à mon courrier qui est combien abondant.
Parce que vous n'avez ni mail, ni téléphone portable.
Ah, je suis alors là 100% vieux jeu, puisque je ne possède pas de téléphone portable, je ne possède pas d'ordinateur, je ne sais pas comment allumer un ordinateur. Je ne possède par ailleurs pas de permis de conduire, pas de voiture, pas de chauffeur, pas de télévision.
Quand un homme veut vous joindre, il fait comment ?
Eh bien, il me court derrière.
Ah. Vous ne recevez pas texto alors du coup ?
Je ne reçois pas de texto et je vous jure que ça ne me manque absolument pas.
Pour vous trouver, il faut vous écrire par la poste ?
De bonnes vieilles lettres avec un papier et un stylo dans des enveloppes avec un timbre. Et je prétends que c'est la meilleure forme de communication qui existe.
Et vous répondez, il paraît, à tous vos fans ?
Je réponds à tous qui en vaut la peine, c'est-à-dire à 9 lettres sur 10.
Et c'est quoi la 1 sur 10 ?
Alors, je ne réponds pas à ce qui est grossier. Je ne réponds pas à celui qui, sans vous connaître le moins du monde, vous demande en mariage tout de suite.
C'est arrivé ?
Oh, c'est arrivé plus d'une fois.
Mais pourquoi ça m'arrive jamais, ça ?
C'est bizarre.
Et par ailleurs, avec le temps, j'ai cessé de répondre à ce que je trouvais exagérément stupide. Par exemple, la personne qui dit « j'écris pour vérifier que vous répondez », ça, je commence à trouver ça un petit peu
stupide. Parce qu'il paraît que pendant très longtemps, aux signatures, vous donniez carrément votre téléphone vous avez arrêté ça.
Lors de mes années belges, c'est-à-dire avant 1997, quand j'étais encore à plein temps en Belgique, je donnais mon téléphone fixe. Bruxellois, aux gens et je, il m'arrivait des trucs pas croyables. J'avais un bon vieux répondeur, vous savez comme ça existait à cette époque, et je tombais sur des déclarations interminables ou sur des sonates au violon jouées à 2h du matin. Et je donnais aussi mon adresse privée à tout le monde, donc il m'est arrivé de retrouver un homme nu sur mon paillasson. Enfin,
oh oui,
ça n'est jamais arrivé non plus,
non plus
ça.
Sympa, non,
non, je crois, comment ça se fait? Vous êtes un sex symbole, alors?
Bah, vous avez vu, franchement, il n'y a pas de quoi faire un sex symbole, mais je crois simplement que les gens étaient intrigués.
Moi aussi, quand je suis intrigué, je me fous à poil.
Ah oui, on va dire donc ça.
Elle va être des idées.
Donnez votre adresse en direct, on verra bien. Vous me direz demain matin si ça a marché.
Non, mais c'est pas que je cherche ça, mais oui. ça
mais
quand
s'il
même.
Est nu, maintenant qu'il est là, entrez, monsieur.
Vous allez attraper froid, enfin.
Pas là. Mais j'ai un plaid, j'ai du thé. Venez.
C'était très gênant par rapport à ma gardienne, parce que c'est ma gardienne
ça
qui m'a demandé
des
comptes
journées,
après.
Peau,
elle me disait, mais écoutez, arrangez-vous à ne plus avoir un homme nu devant moi.
Hein. Oui. Amélie, notons, alors votre vie entière est consacrée à l'écriture, c'est un sacerdoce, vous êtes rentrée dans les ordres littéraires, sauf que vous avez remplacé le vin de messe par le champagne, c'est
absolument.
Très important pour vous le champagne.
Ah oui, ma conception du bonheur, c'est tout simple, il suffit de boire du très 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 bon champagne.
Par contre, il faut trouver quelqu'un avec qui boire.
C'est ça le problème, ou plutôt la vertu du champagne, c'est qu'en aucun cas il ne faut le boire seul. Un grand champagne, ça se partage. Donc le sens de la vie consiste bien évidemment à trouver une ou plusieurs personnes avec qui on puisse partager
vous
le champagne.
Comment, alors,
on est là. Vous mettez,
on peut se dire 19h, 19h30.
Donc vous mettez du puff daddy à fond et vous voulez éclater comme ça.
Quelle horreur.
Au fil du temps, Ménilotton, vous avez imposé votre personnage intrigant, mystérieux, loufoque, décalé. Vous jouez beaucoup avec les médias, c'est une façon de vous protéger, car en fait on ne connaît pas vraiment Ménilotton.
Mais croyez-moi, je ne joue pas. Je réponds toujours aux questions de la seule manière dont je puisse répondre. Alors il se trouve que les trois quarts du temps quand je réponds quelque chose, je lis la perplexité dans le regard d'autrui, mais c'est ça, c'est l'unique réponse dont je suis capable.
Vous êtes atypique, Amélie Nothomb.
Je suis la seule chose que je peux être.
Il paraît que vous avez une mémoire incroyable, que vous êtes très physionomiste.
Plus exactement, j'ai une mémoire absolue des émotions. Quand quelqu'un me touche, je peux être sûre que je m'en souviendrai toute ma vie. Par ailleurs, si quelqu'un ne me touche pas, il peut venir même 50 fois à mes dédicaces, je ne me souviendrai jamais de lui.
Jean-Philippe, vous ne vous rappelez pas?
C'est qui, ce monsieur?
Quelqu'un qui a voulu vous toucher.
À la soirée champagne, vous avez pas mal touché à la fin.
Vous dites que vous avez beaucoup de romans dans vos tiroirs que vous ne publiez pas. Comment s'effectue le choix? C'est votre éditeur ou c'est vous qui vous dites non, ce livre n'est pas digne d'être publié?
C'est moi et moi seule. J'écris infiniment plus que ce que je publie puisque je suis en train d'écrire mon 94e manuscrit alors que somme toute je n'en ai publié que 27. Donc vous voyez, je publie à peine le quart de ce que j'écris. C'est donc la démarche est la suivante. J'écris entre 3 et 4 manuscrits par an. Et à la fin de l'hiver, je relis tout ce que j'ai écrit dans l'année, là encore 3 ou 4 manuscrits, et c'est toute seule que je fais, de façon très instinctive, le choix de celui de mes manuscrits de l'année que je publierai. Je préfère toujours que ce soit un manuscrit de l'année, non qu'il me soit le moins du monde interdit de plonger dans ce que j'appelle mes archives, mais je préfère, en tant que maman de famille nombreuse, je préfère montrer les bébés récents plutôt que les bébés anciens.
Ouais. Il y a tellement de gens qui sont en panne d'inspiration, c'est quand même incroyable ça.
Alors je vais vous confier, Anne Roumanoff, j'ai trouvé le grand secret de l'inspiration. Le secret de l'inspiration est
le
très
champagne.
Simple. Il suffit de ne jamais s'arrêter. Je pense que ça, c'est une des différences qu'il y a entre les autres auteurs et moi. Les autres auteurs font toujours une pause entre leur manuscrit, que ce soit une pause d'un jour, ou d'un mois, ou d'un an. Moi, je ne fais même pas une pause d'une seconde. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris fin au bas d'un manuscrit, la seconde d'après, je prends le nouveau cahier et je commence tout de suite le suivant. Je compare l'inspiration à une espèce de formidable muscle qui, une fois qu'il est échauffé, ne se calme absolument jamais. Alors, je ne suis pas en train de vous prétendre que toutes les idées qui me viennent sont formidables, mais ce que je constate, c'est que le fait de maintenir cette inspiration tout le temps en éveil fait qu'elle sécrète toujours quelque chose.
Et vous avez écrit combien de livres depuis le début de cette émission?
Ben H a fait votre portrait, Amélie Nothomb.
Oh. Oui, 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 je suis là. Chère Amélie Nothomb, lorsque vous préparez un livre, vous parlez de grossesse.
Oui.
Et lorsque le livre existe, il devient votre enfant.
Oui.
Eh bien, sachez, selon la même analogie, que faire votre portrait fut un accouchement difficile et sans péridurale.
Ciel.
Pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes une femme intelligente, mystérieuse, subtile, raffinée. Soit typiquement le genre de femme qui ne me regarde jamais. Le genre de
c'est
femme
sympa
qui
pour les
m'effraie, elles se reconnaîtront. Le genre de femme qui m'effraie, le genre de femme qui me fascine. Vous me fascinez, oui, Amélie Nothomb, depuis votre œuvre jusqu'à vos chapeaux, en passant par la mélodie de votre phrasé, votre façon de vêtir avec des mots haute couture, une phrase qui se voulait sobrement prête à parler. Oui, Amélie, pardon, quand je suis face à une écrivaine, ma plume s'emballe. J'ai plus rien face à une chanteuse, c'est ma voix qui s'emballe. Hâte de recevoir Clara Morgan. Oui, vous me fascinez, mais non, Amélie Nothomb, vous ne me regarderez jamais. Vous ne me regarderez jamais parce que, a priori, tout nous oppose. Vous étiez une enfant précoce, intelligente et curieuse. Moi, j'ai mangé des Legos jusqu'à l'âge de mes 11 ans. C'est vous dire. Vous êtes très proche de la culture japonaise, alors que moi, ma culture nippone se résume grosso modo au menu B4 et à Pikachu. Vous conservez tous vos textes non publiés, vous le disiez, car vous seriez incapable de les brûler, dites-vous. Cela reviendrait à brûler vos enfants. Hein, moi aussi, mes chroniques, c'est comme mes gosses, hein, mais je ne conserve jamais celles qui ne sont pas publiées, hein, parce que c'est Anne Roumanoff qui les brûle directement. Et puis, au gré de mes recherches, au fil de votre biographie et entre les lignes de vos ouvrages, j'ai cru découvrir la femme derrière l'icône, la petite fille qui se cache derrière la geisha baroque envoûtante, la fragilité du corps sous le costume et les névroses écorchées vives d'une plume qui vient combler une enfance faite de journées de solitude et de nuit de cauchemar. Pardon. Voilà que je m'emballe de nouveau. Bref, tout ça pour vous dire, Amélie Nothomb, que même si vous ne me regarderez jamais, moi je continuerai d'être fasciné. Et je ne suis pas le seul. Les gens vous trouvent tellement génial qu'ils pensent, comme Anne le disait, que vous êtes française. On fait toujours ça en France. C'est une marque d'affection réservée seulement aux francophones qui ont du talent. Garou, par exemple, est resté québécois. Lui. Aujourd'hui, vous êtes même la star de la rentrée littéraire que vous faites chaque année sans discontinuer depuis 27 ans. Et c'est rare, hein. C'est unique même hein, de faire 27 fois la même rentrée sans être considéré en échec scolaire. Chapeau. Et vous l'aurez compris, comme plein d'autres personnes à travers le monde, j'attends déjà le 28e bébé. Et d'ici là, bonne grossesse, mademoiselle
Nothomb. Merci, bravo. Tu vous as séduit, Amélie Nothomb. Vous êtes séduit par Ben H.
Mais à fond. Ah, wow. Quel esprit.
Ah oui.
L'esprit surtout, hein, le physique, on verra plus tard.
Et son physique alors?
Ah ben c'est la radio. Hein.
Écoutez, je vais le regarder plus attentivement.
Voilà, c'est pas mon signe, bizarrement.
Christine Leroux a des questions à vous poser,
oui,
Amélie Nothomb.
Oui, tout à fait. Parce que comme tous les écrivains, vous êtes également une lectrice. Aussi, pour en savoir un peu plus sur vos goûts littéraires, je vous propose une interview, attention, bibliothèque. Alors, quel livre auriez-vous aimé écrire? Les Fleurs du Mal, même si vous n'avez pas la main verte. Le Rouge et le Noir, parce que c'est votre code couleur quand vous vous maquillez. Le Blé en Herbe, car comme tous les artistes, vous aimez l'herbe, mais surtout le blé. Stupeur et Tremblement, même s'il se trouve que c'est déjà écrit par vous.
Écoutez, à part Stupeur et Tremblement, vous n'avez mentionné que des chefs-d'œuvre qui ont tous énormément compté pour moi et j'aurais été totalement incapable de les écrire. De toute façon, c'est pas grave, ils sont déjà écrits, donc il ne faut pas souffrir de ne pas avoir ce talent-là à d'autres longs à ma place.
Alors, quel livre pensez-vous que tout le monde devrait lire? Le Petit Prince, pour se rappeler que du temps de Saint-Exupéry, la royauté, c'était quand même autre chose que Meghan et Harry. Les Raisins de la Colère, James et la Grosse Pêche et Poils de Carotte, parce qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, donc là, c'est pas mal, je crois. Le Deuxième Sexe, parce que sa récente adaptation, mieux connue sous le titre de Hashtag Balance ton porc, est une œuvre assez inégale. À la recherche du temps perdu pour que les Français cherchent enfin autre chose que du travail.
Eh bien, à la recherche du temps perdu parce que j'en ai assez d'entendre les gens dire que c'est un livre embêtant. C'est un livre pas embêtant du tout. Je l'ai lu 2 fois en entier et je vous assure, c'est passionnant. Donc il faut qu'on cesse de dire que Proust est embêtant, c'est tout sauf embêtant.
C'est vrai, je suis très émue par cette réponse. Alors, j'aime beaucoup Amélie Nothomb. Alors, quel héros ou héroïne de livre auriez-vous aimé être? Martine, parce qu'entre la plage, la campagne, le zoo et la ferme, elle a quand même une vie très sympa. Frankenstein, parce que de toute façon, maintenant, avec les filtres Instagram, on masque très bien les petits défauts du visage. Don Quichotte, car vous savez ce que c'est de vous battre contre des moulins, vous rencontrez beaucoup de critiques littéraires.
Alors, physiquement, Frankenstein, c'est certainement ce qui me va le mieux, mais non, je ne
peux pas vous laisser dire ça.
J'ai une très grande tendresse pour Don Quichotte, donc je vais choisir Don Quichotte, c'est mon livre préféré. Donc. Il se défend pour l'honneur, il est convaincu de ce qu'il fait. Ce qu'il fait est peut-être inutile, mais il le fait avec le dernier acharnement. Je trouve magnifique de vouer toute sa vie à se défendre pour l'honneur.
Un peu comme les Balkany. Bien. Et enfin, si vous deviez qualifier les chroniqueurs de cette émission en un titre de livre, vous diriez que nous sommes les 3 Mousquetaires, les Misérables, les Petites Filles Modèles ou l'Assommoir.
Ça vous va tellement bien d'être les 3 Mousquetaires.
Ah, merci beaucoup, Amélie Nothomb.